Bon, ben c'est parti. Alors, Scarline, est-ce que tu peux nous présenter le groupe et quelle était votre démarche à la création de l'aventure?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, le groupe existe depuis 2013 maintenant. Donc, la démarche de la création, c'était moi et Joe, Joe qui est guitariste du groupe, et donc moi, Alex, qui est chanteur, de monter un nouveau groupe avec quelque chose d'un peu différent et d'essayer de moins se restreindre à typologie de style particulière. Donc à partir de ça, on a commencé à composer. On a sorti un premier album en 2016 qui s'appelle Ghost. Ensuite, cet album nous a permis en fait de chercher un line-up parce qu'on a enregistré uniquement tous les deux. Et à partir de là, en fait, au niveau du line-up, on a tourné pendant 2 ans avant d'avoir une signature chez le label Mystic Prod qui nous a réédité l'album cette fois avec une distribution et un remaster pour avoir un son un petit peu plus gros et surtout pour profiter d'une vraie distribution et d'une promotion un petit peu plus importante. À partir de là, on a pas mal évolué, on a encore bougé le line-up a pas mal changé tout au long de l'aventure Scarline, et à partir de 2019, on a commencé à se centrer sur la composition de notre dernier album, où là, donc, deux nouveaux membres sont arrivés, donc Fabien à la batterie et Olivier à la basse. En 2017, il y avait déjà Michel qui nous avait rejoint, qui fait toujours partie du line-up. Et en fin 2019, on a sorti notre dernier album qui s'appelle Soulmate, toujours chez Mystic Prod et toujours distribué par Season of Mystic.
D'accord. Pour parler un peu d'actualité, vous aviez pas mal de trucs prévus dans les semaines qui viennent. Quel est l'impact des événements actuels sur la vie du groupe?
Eh ben, sur la vie du groupe, sur les concerts, effectivement, oui, on a pas mal d'annulations. C'est surtout des choses qui ont été reportées plus qu'annulées. Donc, c'est pas très très grave. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, il vaut mieux penser à sa sécurité qu'à autre chose. À côté de ça, pour nous, c'est pas forcément quelque chose de compliqué à vivre parce qu'on a quand même pas mal de communication entre nous par les réseaux, au téléphone, on s'appelle souvent et puis on travaille sur plein d'autres choses, donc ça nous permet de se recentrer un peu sur la communication, de travailler un petit peu des nouvelles chansons, d'avancer sur des projets qu'on avait en cours, notamment là on avait un clip qui était en cours de production. Bon, ça c'était le truc un petit peu dommage, c'est que ça nous a ralenti parce qu'on était en train de fabriquer des décors pour le clip et on était presque au bout et voilà, ben là, on va devoir attendre de se réunir pour finir, mais bon, c'est pas très grave, on attendra et on finira ça quand on aura le temps, mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu le truc où on était bien parti, on était bien chaud pour finir tout ça et proposer un clip assez rapidement, mais bon, tant pis, on fera ça un peu plus tard. Et ensuite, on espère que les dates un petit peu plus éloignées, comme celles de juin et de juillet, pourront avoir lieu. Pour l'instant, on ne sait pas trop, donc comme on voit qu'il y a quand même pas mal de festivals qui commencent à être annulés, donc récemment le Download,
oui,
voilà, on se dit que bon, on n'a peut-être pas encore fini d'avoir des annulations. Donc pour l'instant, on prend ça avec philosophie, c'est pas grave, c'est pour tout le monde pareil, donc faut continuer d'avancer, faut continuer d'écrire, faut continuer de composer, faut continuer de faire des choses. Les gens sont chez eux, ça permet d'être plus proche d'eux par les réseaux. Donc on fait pas mal de vidéos en ce moment, des vidéos acoustiques, des playthroughs sur certains titres, on a pas mal de surprises qui vont arriver aussi, du coup on s'est un peu mobilisé pour faire de nouvelles choses, donc on prend ça avec philosophie, pour être serein.
D'accord, donc l'album était sorti le 29 novembre de mémoire, donc vous aviez déjà pu faire la release partie fin d'année dernière.
Ouais.
Et puis les dates qui arrivaient là à moyen terme, c'était surtout mai, si je me
souviens. Oui, on commençait les dates à partir de mai, donc là on était censé le jouer le 2 mai et le 16 mai au Warm Up Metal Days.
C'est mort ça? Les deux dates sont mortes ou?
La première est morte, la deuxième, pour l'instant, il n'y a pas d'annulation, hein, donc normalement on devrait la faire, mais moi j'ai mis un certain doute sur cette date-là. Quoi.
D'accord. Warm Up Metal Days est lié au festival qui est en Slovénie,
le Metal Days, ouais, le Metal Days slovène, ouais, c'est ça. Okay. C'est la première année en fait où ils font un Warm Up en France, donc ils ont fait une date à Paris, et donc là l'autre était à la scène Michelet à Nantes. Et donc voilà, comme s'est un peu rapproché des Metal Days pour des dates à venir. On avait ces dates qui arrivaient.
D'accord,
là.
Comme tu disais, vous visez plutôt juin là actuellement.
On vise plutôt juin, ouais, juin-juillet. En juillet, on a le CAF Fest aussi, à Gisors, château de Gisors, qu'on espère pouvoir faire parce que le lieu est juste magnifique. Et, l'orga est plutôt cool, donc ouais, on a vraiment envie de faire cette date-là. En plus, il y a des groupes vraiment cool avec qui on a envie de refaire de la scène. Donc voilà, on va voir, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de se projeter en ce moment. Quoi.
D'accord. Tu parlais donc de votre premier album Ghost, sorti en 2016. Donc, comme tu disais, ressorti en 2018, remasterisé avec une pochette légèrement différente.
Oui, c'est ça.
Quelle a été, vous, votre implication, justement, dans le remaster? C'est vous qui avez choisi, ou le Mystique, vous avez mis un budget à dispo? Enfin, quel était le...
Oui, on nous a mis un budget à dispo, c'est ça. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait remasteriser chez le studio Upload Studio à Montpellier. On a fait pas mal de tests un petit peu partout, et c'est celui qui a, on va dire, réussi le mieux le taf, quoi. C'était pas évident parce que c'est un album Ghost qu'on a fait à deux, et avec nos moyens. Donc à l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on avait aujourd'hui pour faire de l'enregistrement, et forcément le son était bien moins puissant et bien moins propre que ce qu'on a pu faire sur Soulmate. Ça, c'est indéniable.
Mais c'est uniquement un remaster, vous n'avez pas rejoué une note, il n'y a pas de modification des titres, c'est juste un...
Non, c'était juste un remaster. En gros, ce qui s'est passé, c'est vraiment le label qui voulait ressortir l'album, et comme il voulait marquer le coup, parce que nous, on avait quasiment épuisé nos stocks du premier, donc il a dit, pour marquer le coup, les gars, faites un remaster, et puis de là, on s'est dit, allez, on va vraiment marquer l'univers qu'on a été en train de construire, avec notamment le personnage qu'on a sur la sur cette pochette.
Qui a vieilli.
On s'est dit,
personnage de la pochette qui donc a vieilli.
Eh oui, il a vieilli. Et il a pas fini de vieillir.
D'accord. Bon, ok. Finalement, donc, tu disais à l'origine donc, de ce projet à deux, il y avait une volonté de faire une musique un peu assez large, avec de nombreuses influences. Est-ce que justement tu pourrais peut-être essayer de plus que donner des étiquettes, parce que c'est toujours compliqué, en particulier pour vous, ça me paraît compliqué, peut-être plus donner vos grandes influences communes, alors à deux surtout, et puis peut-être à cinq surtout maintenant, mais...
L'influence commune, je pense, c'est tout ce qui touche un petit peu à la trip-hop et à la musique électronique. Ça, on a tous des groupes qu'on aime beaucoup, on est très fans des gros blockbusters comme Massive Attack, Portishead, Sneaker Pimp, enfin voilà, on aime beaucoup toute cette vague-là. Après, on a aussi, je pense, un fond assez néo-metal, où on aime beaucoup Korn, toute cette vague 90 qui a bien marqué nos esprits et notre adolescence. Et ensuite, on a quand même aussi, je pense, ce côté un peu rock-pop, chanson. C'est-à-dire vraiment ce côté chanson, couplet-refrain, un vrai refrain, un vrai couplet. C'est des choses pour lesquelles, je pense, on a tous un peu la même manière de voir la musique. On essaie essentiellement de faire des chansons, quoi. Ouais, c'est ça, le fond des disques.
D'accord. Comme tu le disais également, vous avez dû gérer, donc à deux, des différents changements de line-up.
Oui. Complètement.
Comment vous intégrez ça dans la vie du groupe? C'est, je pense, toujours quand même, ça peut un peu ralentir certaines marges de progression, ou il faut trouver des musiciens qui habitent pas de l'autre côté du pays. Enfin, c'est.
Ouais. Pour nous, ça n'a pas été du tout problématique. Au contraire, ça a même été bénéfique, dans le sens où on avait donc composé cet album à deux. Donc l'idée, c'était de trouver des musiciens qui avaient simplement à relever les partitions et à jouer l'album, hein, pour pouvoir faire du live. Mais il y en a certains qui ont dû arrêter parce que ça leur demandait trop de temps. Il y en a certains avec qui on a arrêté la collaboration parce que on sentait que il y avait pas assez d'implication. Donc nous, comme on voulait quand même quelque chose d'un peu au moins avec un objectif un peu professionnel, donc on a préféré pas continuer plus loin. Mais ça nous a jamais empêché de faire des concerts et trouver rapidement des musiciens. Par contre, ce qui a été très bénéfique, c'est que on a pu voir passer beaucoup de monde. Et quand il y a eu quelqu'un qui est passé et qui tenait son rôle à cœur, on l'a gardé. Et il est surtout, c'est toujours très bien intégré au groupe. Notamment Michel, qui est arrivé en 2017, qui est toujours là. C'est des musiciens avec qui on s'entend très très bien musicalement, avec qui on a beaucoup d'échanges, avec qui on fait beaucoup de choses en commun, donc ça fonctionne super bien. Et Olivier et Fabien qui sont arrivés récemment, c'est pas des gens qu'on a découvert par hasard. Olivier, c'était la personne qui a réalisé nos premiers clips, c'était aussi vidéaste. Mmh. Et Fabien, il a été batteur dans le groupe qu'on avait avant avec Joe. Donc c'était il y a 10 ans et on a joué 10 ans ensemble. Donc c'est 20 ans d'amitié. Donc du coup, voilà, on s'est relancé un peu sur ça. On lui a proposé, on lui a dit allez, vas-y, viens, on refait quelque chose. On a des idées, on a des envies et tout ça. Et il se trouve que Fabien, en plus, est ingénieur son et a un studio donc d'enregistrement et enregistre des groupes. Donc ça, en plus, apporte une nouvelle pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, le line-up, ça fait un an et demi à peu près qu'on travaille ensemble. Et ça marche super bien. Et là, on est vraiment très, 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 très content. C'est ultra stable. Et surtout, les échanges sont bons et ça avance, quoi. C'est pas vraiment quelque chose. Tout le monde est impliqué dans le projet. Il n'y a plus de leadership, vraiment, là, c'est tout le monde, enfin, voilà, Scarline appartient à tout le monde, c'est ça qui est génial.
Ok, donc si on regarde le temps nécessaire de passer de Ghost à Soulmate, c'est environ 3 ans, tu penses que c'est le rythme naturel du groupe ou ça peut s'accélérer maintenant que vous êtes stabilisé, comme tu disais, vous avez un line-up solide?
Je pense que ça peut s'accélérer, mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on... On va pas se presser pour sortir un album. On est déjà en train de composer des choses pour le prochain. Là, on se concentre essentiellement sur la promotion de Soulmates et aussi sur les choses qu'on va faire sur scène avec et qu'on a déjà fait. Donc, répéter bien les morceaux, préparer les choses pour la scène. Voilà. Mais par contre, oui, je pense que ça va accélérer le processus parce que celui où on a mis 3 ans, c'est parce que ben, les musiciens sont arrivés en 2019 et on a passé un an à faire de l'arrangement. Donc si on passe un an à refaire de l'arrangement sur le prochain album, je pense que d'ici 2 ans, on a un nouvel album. Ouais.
D'accord. Finalement, est-ce que vous avez une méthode de travail classique ou un process qui est devenu maintenant classique de création d'un titre au sein du groupe?
Oui, alors c'est pas du tout classique, mais par contre ça en devient classique. C'est ce qu'on fait souvent, c'est que on part d'une base qui a été faite avec deux membres du groupe. Alors c'est souvent moi avec quelqu'un, parce que moi je chante et que donc j'écris les textes. J'ai besoin d'entendre ce qui est composé pour sentir si c'est quelque chose qui peut me correspondre. Donc on fait vachement attention à ça. Mmh. Et ensuite on se réunit tous ensemble et on propose les quelques riffs, couplets et refrains qu'on a trouvés à deux. Donc ensuite, chaque musicien se réunit à deux, par exemple les deux guitaristes qui vont chercher un peu des parties, des arrangements un peu différents, le bassiste qui va travailler chez lui, pareil, par MAO, et nous envoyer des choses. Ensuite, on se réunit tous, on joue les morceaux, on change certaines choses, on retourne à la maison, on modifie. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'échanges comme ça, un petit peu... dans tous les sens pour fabriquer en fait petit bout par petit bout le morceau et ensuite se réunir tous ensemble pour finaliser les choses en les jouant pour s'apercevoir quand on joue le morceau en entier qu'est-ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins et puis peut-être que en jouant tous ensemble on va avoir un ressenti un peu différent avec la batterie qui va à un moment peut-être ressentir le besoin de jouer un peu plus fort, un peu plus doux, un peu plus... On fait vachement attention en fait au groove et au feeling sur nos compositions maintenant. C'est quelque chose qu'on faisait pas forcément avec Ghost qui a été beaucoup plus froid et beaucoup plus clinique comme album.
D'accord, donc finalement c'est un processus assez structuré, c'est pas juste vous jammer et puis vous voyez ce qui en sort quoi.
Non, c'est... on fait ça... On fait quasiment jamais ça, ou alors si on jam, c'est parce qu'il y a un des musiciens qui a eu une idée, on a travaillé sur quelque chose, il nous reste un peu de temps, et tiens, voilà, un des musiciens propose un riff, et ensuite on a jamé, je fais peut-être une demi-heure ou 40 minutes sur ce riff-là, parce que ça va peut-être devenir inspirant pour refaire des choses à la maison.
Voilà,
c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Okay.
Qu'est-ce que tu peux nous dire en général des sessions d'enregistrement de Soulmates? Et est-ce que surtout vous avez modifié votre façon de travailler par rapport à Ghost, avec potentiellement donc de nouvelles personnes autour de vous, et puis peut-être un budget un peu plus... ou des technologies un peu plus...
Pas complètement, ça a tout changé. Ben déjà, on est passé au niveau des guitares, on a changé complètement tous nos systèmes, même au niveau des basses. Maintenant, on travaille sur des amplis Kemper, donc ça nous permet d'avoir une largeur de son incroyable, et surtout, ça nous permet d'avoir le même son qu'on a au studio sur scène. Donc, on a pu régler pas mal de choses et réfléchir à la scène pendant le process d'enregistrement. L'enregistrement, il a duré à peu près un mois. Donc, sur ce mois-là, on a dû passer 20 jours d'enregistrement, 12 jours d'enregistrement, et on s'est laissé 8 jours un petit peu pour respirer après les prises, et ensuite, on a passé 10 jours sur tout ce qui était mix, mastering, pour vraiment essayer de ressortir les choses les plus vivantes et les plus propres.
D'accord. Finalement, quel était votre niveau de préparation quand vous êtes entré en studio? Tout était calé à notre près, ou vous êtes laissé des zones de liberté en disant, ça, on finalisera sur le moment?
Tout était calé à la note près, et on s'est quand même donné des libertés au dernier moment. Voilà. En gros, ça s'est passé comme ça. Donc, on a beaucoup répété les morceaux avant, on les a beaucoup joués pour justement éviter d'arriver en studio et de faire quelque chose d'aseptisé. On voulait surtout pas faire une prod comme toutes ces prods qu'on entend un petit peu en ce moment, où c'est ce qu'on appelle la guerre du DD, quoi, avoir du gros son, et par contre derrière on n'entend pas vraiment ce que jouent les musiciens. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de préparation en amont pour arriver en studio et vraiment jouer les morceaux, et pas faire deux notes coupées, copier-coller, et voilà, le but vraiment c'était ça, c'était apporter du relief et de la vie à l'album, quoi.
D'accord. Finalement, sur les 10 nouvelles compositions, est-ce que tu te souviens laquelle a été finalisée, la première?
La première, ça a été la première, Next to the Maker, parce qu'on a fait tous les morceaux dans l'ordre de l'album, et presque dans l'ordre de la composition. Donc, c'est assez marrant. Mais...
Et finalement, ton expérience, est-ce que tu as l'impression que le premier morceau finalisé colore d'une façon ou d'une autre le reste de l'album?
Je pense, parce que ça a été d'ailleurs le... ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fixé deux morceaux. On s'est fixé le premier et un morceau qui était au milieu de l'album, complètement différent, donc Next to the Maker et Perfect Demon. Et l'idée, c'était d'arriver à trouver une espèce de lien sonore entre ces deux morceaux qui sont complètement différents, pour pouvoir ensuite avoir une ligne directrice sur l'ensemble de l'album. Donc oui, il y a deux morceaux qui ont vraiment guidé le reste du mix et du mastering.
Et donc, comme tu le disais, vous avez quasiment composé finalement ce qui est devenu la tracklist de l'album. Et donc, vous n'avez pas eu après au jeu du comment je repositionne les titres par rapport aux uns aux autres?
Pas spécialement, parce que c'était assez naturel. On a essayé quand même d'apporter du relief même dans la manière de composer et dans la manière de faire les titres. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on faisait les titres, on disait là il faudrait qu'on fasse quelque chose d'un peu plus tombé, là il faudrait qu'on fasse un truc un peu plus puissant, là il faut qu'on... Voilà, on essayait vraiment de créer ça comme... on a vraiment essayé de faire l'album comme on fait un film, en fait. La scène d'action, la scène de calme, la scène de réflexion, là, voilà, on a vraiment essayé de composer tout ça comme ça, donc... ouais, effectivement, c'est... C'est un peu, ouais, c'est ça, c'est, on a travaillé de manière un peu cinématographique. Donc,
Et toi, en tant que parolier, tu interviens une fois que toute la musique est terminée, ou enfin, t'as besoin que la musique soit terminée pour pouvoir poser des paroles dessus, ou tu travailles en parallèle?
Non, je travaille pas. Je travaille surtout en amont, parce que là, pareil, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est pour ça que je te disais, je travaille beaucoup avec tout le temps avec les musiciens, parce que quand on compose, parce que ça me permet d'écrire en même temps qu'on compose. Donc du coup, en fait, quand j'ai une idée, hop, je la pose et je commence à travailler dessus. Et en fait, ensuite, on regarde un peu ce que j'ai écrit et on essaie aussi de nourrir les paroles par la musique, plus que l'inverse. Donc, souvent, les parties chants sont écrites avant qu'on ait fait tous les arrangements.
D'accord.
Ensuite, moi, j'apporte de l'arrangement vocal ensuite par rapport à ce qu'on a fait comme arrangement musical, parce que forcément, par moment, la musique elle va accentuer une émotion ou quelque chose qu'on veut faire passer. Moi, ça va me permettre aussi de l'amplifier, donc c'est un peu le jeu du question-réponse, on s'envoie des informations les uns les autres, et
okay.
Tu fais un peu évoluer le relief des morceaux.
Un petit mot sur donc la reprise et puis donc l'invité prestige de l'album. Alors d'abord, un, pourquoi avoir choisi Wonderful Life, qui est un peu ce tube iconique des années 80, et deux, pourquoi Anneke von Giesbergen?
Alors Wonderful Life parce que donc l'album s'appelle Soulmates. Tout le fond de l'album, en fait, au niveau des paroles et au niveau du concept, on a voulu parler de la dualité, donc deux sentiments opposés dans une personne. Et Wonderful Life, je trouve qu'il a résumé un petit peu ce concept, dans le sens où Wonderful Life, donc qui est magnifique, et dans le texte, quand il dit pas besoin de courir ni de se cacher, pas besoin de pleurer ou de rire, lui il essaye de recentrer un peu tout ça et de se dire bon bah il y a toutes ces choses autour de moi qui sont un petit peu opposées les unes aux autres, mais il y a quand même un chemin au milieu, il y a quand même quelque chose, de la lumière au bout, il faut avancer quoi. Et donc du coup le titre s'y prêtait vraiment, et en plus on l'a placé au centre de l'album parce qu'il apporte ce petit truc de, on va dire, d'espoir, on va dire. Donc comme l'album est assez sombre, mais comme on a quand même pas mal de choses qui parlent un peu d'espoir, le morceau il s'y prêtait vraiment quoi. Paradoxalement, on a essayé de le rendre un peu plus sombre que ce qu'il était, parce que l'idée c'était ça aussi, c'était de lui apporter quelque chose de très sombre, et en même temps on a des couplets qui sont presque sautillants, un peu funky, même groove, avec une basse qui slap, donc on a joué encore beaucoup sur ce contraste là. Alors Anneke, ça s'est passé un peu particulièrement, on était en studio, on finissait de maqueter Wonderful Life, parce qu'on n'avait pas idée de l'avoir sur ce morceau avant d'avoir maquetté le morceau. Et en discutant, on s'est dit, tiens, ce serait juste fantastique d'avoir un feat féminin et tout, une petite voix, ça serait génial et tout. Et puis en rigolant, moi je lance, demain, je prends mon téléphone, je appelle Anneke, je lui dis de venir faire poser ses mots. Alors tout le monde se barre, c'était rigolo quoi. Et le lendemain, en discutant avec mon guitariste Michel, je lui dis, écoute, je me dis, est-ce que j'enverrai pas un mail quand même pour voir, on sait jamais. Tant que le coup, de toute façon, on n'a rien à perdre, le morceau est enregistré, si c'est pas elle, tant pis, ça sera moi tout seul, et puis voilà. Et de là, donc, j'ai envoyé un mail à Rob Snyder, donc son manager et mari, qui était l'ancien batteur de The Gathering, et de Celestial Season. Et 3 heures après, je crois, 3 ou 4 heures après, j'ai eu une réponse où, en gros, on me disait super, Anneke adore la chanson originale, elle a beaucoup aimé votre adaptation, donc on va le faire. Donc j'ai relu le mail, je pense 50 quoi, pour être sûr de ce que je disais. Il me dit, c'est pas possible, elle a dit oui là, ou okay, qu'est-ce que c'est, il y a un problème. Et de là, on est rentré en studio, on a enregistré le morceau, on lui a envoyé le morceau, elle a enregistré toutes ses voix dans son studio, elle nous les a renvoyées, et puis
Facebook, elle vous a envoyé une petite vidéo, on la voit à un moment enregistrée.
Oui, oui.
Mais donc finalement, vous étiez mis d'accord avec elle de qui prend quelle partie?
Oui, en fait, moi je lui avais fait un chemin un petit peu, une ligne un peu de conduite, parce que moi j'avais déjà, du coup dès qu'elle a dit oui, j'avais que ça en tête, donc j'ai envisagé le truc de X manière, et du coup je me suis dit, ce qui serait intéressant, ce serait d'abord déjà sa voix à elle, dès le départ, pour vraiment... asseoir le fait qu'elle est là, et puis lui laisser une tribune quoi sur ce morceau quoi, et pas partir immédiatement sur un truc de duo et tout ça. Et du coup on a vachement joué sur ce truc là de un coup c'est elle, un coup c'est moi, ensuite on chante ensemble, on fait tous les refrains ensemble. Donc on lui avait donné une petite ligne directrice, et surtout moi ce que je voulais c'est que on entende sa voix quand elle est grave, parce que j'adore sa voix quand elle est un peu suave, un peu grave, et on n'a pas l'habitude de l'entendre chanter comme ça. Donc je trouve ça intéressant qu'elle commence le morceau comme ça, et qu'on fasse monter la voix jusqu'à sa voix signature, j'ai envie de dire, sur la fin du morceau, où là, il y a une envolée un peu lyrique.
Voilà. D'accord, mais finalement, dans le premier titre que vous leur avez envoyé pour les solliciter, t'avais tout chanté?
Ah oui, tout était chanté, oui.
D'accord, donc...
Alors, j'avais fait des voix de tête un petit peu comme je pouvais, mais bon, j'avais fait toutes les voix, ouais, j'avais fait l'ensemble du truc, quoi. Sauf la partie finale, où là, par contre, c'est vraiment qu'a fait sa ligne comme elle entendait, parce qu'on lui a dit, on a cette partie à la fin qu'on va faire durer un petit peu, est-ce que tu peux faire quelque chose avec un peu lyrique pour faire monter la sauce. Voilà, donc là on lui a donné carte blanche. Et d'ailleurs, quand on a reçu les bandes, c'est exactement ce qu'elle nous a envoyé. On n'a absolument rien changé. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'aller-retour. On a reçu les bandes, on les a posées et ça correspondait à ce qu'on voulait. Quoi.
Bon, bah, comme quoi, hein, faut toujours tenter, hein, qui ne tente rien à rien.
Complètement. Et du coup, ça nous a donné pas mal d'idées pour le prochain album. Et là, l'objectif, ça serait de faire chanter Lisa Gérard de Dead Can Dance. Alors, ça risque de...
Ouais, ça risque d'être encore plus chaud, hein, mais bon.
Ça risque de pas être une mince affaire, mais bon, après tout, on n'a rien à perdre, encore une fois. On va essayer, ça. Si ça intéresse, pourquoi pas. Alors, en plus, on est parti sur cette idée-là parce qu'on avait des envies un peu sur un morceau, d'apporter quelque chose d'un peu ethnique et tout ça, donc on s'est dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas fonctionner? Voilà, donc ce sera pas juste sa voix sur un morceau si jamais ça se passe. On espère, on essayera, quoi qu'il arrive. Après, sur l'album, il y a aussi la participation d'une autre voix féminine, donc notamment sur le dernier morceau, qui s'appelle The Smell of the Blood, sur le soundbait, et qui est ma femme, en fait, qui est chanteuse aussi. Donc du coup, voilà, c'est des choses, je pense, qu'on risque de creuser un petit peu aussi. Quoi qu'il arrive, si ce n'est pas Lisa Gérard, ce sera ma femme.
Ah bah écoute, ça sera très bien, sans aucun doute. Au niveau visuel, donc il y a cette pochette là qui reprend donc certains codes de Ghost et qui les font évoluer. Comment vous avez travaillé visuellement et est-ce que ce personnage bicolore est amené à être un peu votre mascotte ou votre je sais pas comment votre Eddie?
Oui complètement. Ça va être un personnage qui va nous suivre tout au long de nos albums et on va évoluer l'univers, on va agrandir l'univers. On est déjà en réflexion sur le prochain album, sur comment on va faire évoluer tout ça, donc on aimerait étendre l'univers, parce que là c'est un personnage seul, et on aimerait bien le faire voir un petit peu ce qu'il y a autour de lui, et c'est un peu l'idée, ouais. On va, je pense, le garder comme image centrale de tout ce qu'on fera avec Scarlett maintenant. D'ailleurs le prochain clip qu'on est en train de réaliser, tourne un petit peu autour de ça, on voudrait montrer un peu la genèse du personnage. Donc oui, je pense que ça va être... il va vieillir encore, du coup. Et voilà, donc oui, on va le faire évoluer.
D'accord, toujours au niveau visuel, donc vous avez sorti donc un premier clip pour Treat Me Bad.
Oui.
Et donc tu disais il y a le deuxième qui est dans les tuyaux et il sortira quand il pourra.
Ouais.
En général, donc vous aviez sorti au moins minimum deux clips assez soignés également pour Ghost.
Ouais.
Est-ce que c'est un exercice que vous appréciez ou c'est plus une obligation assez compliquée mais nécessaire?
Non, nous on adore faire ça et puis tous les clips on les réalise nous-mêmes, donc du coup on a vraiment c'est des choses qui nous intéressent. Pour nous, c'est un super complément artistique à la musique. Donc, on aime passer du temps à réfléchir, à trouver des concepts, à trouver des lieux, trouver des quelque chose à faire, quoi. Donc, voilà, on est un peu boulimique, hein, donc on aime bien faire plein de choses. Comme je te disais, donc moi, je suis graphiste et directeur artistique. On a Michel qui est photographe, qui est un photographe talentueux. On a Olivier donc à la base qui est vidéaste et en plus qui est graphiste et qui fait beaucoup de choses aussi en 3D. Enfin voilà, on a un bon microcosme d'artistes un peu dans le groupe. Donc ça nous permet de faire pas mal de choses. Donc là, le premier clip, Treat Me Bad, c'est quelque chose plutôt qu'on a fait un peu pour nous montrer un peu sur scène, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait vraiment avant, où on avait quelques vidéos live, et là on s'est dit, bah tiens, on a des belles images, on va les utiliser. On a utilisé aussi les projections qu'on utilise sur scène pour les mettre un peu en valeur dans le clip, mais le prochain clip sera vraiment un clip très différent, très beaucoup plus produit, et très un vrai clip avec une histoire, un début, une fin, enfin voilà, un clip quoi.
Ok, et juste pour terminer, puisque on va arriver au temps imparti, vous avez donc lancé une campagne de crowdfunding qui a réussi, donc
ouais.
Vous avez voulu sortir une version vinyle très soignée de l'album. Mmh. C'était important pour vous de proposer ce type d'objet, et est-ce que donc vous êtes vous-même, personnellement ou collectivement, attaché un peu à ce type de collection d'objets un peu limités?
Oui, carrément. Ouais, moi j'ai beaucoup de vinyle à la maison, hein, j'aime beaucoup ça. Et moi j'y tenais pas mal parce que c'était j'ai commencé à écouter de la musique quand j'étais jeune sur vinyle, et dans ma tête c'était un petit peu une manière aussi de dire bah voilà. En fait, c'était la fierté de donner le vinyle à mon père, quoi, qui m'a fait découvrir un peu la musique de ce qu'il écoutait à l'époque, Boston, Cheap Trick, toute cette base rock là. Donc il y avait aussi ce truc là un petit peu, on va dire, sentimental un peu derrière. Et puis voilà, moi je trouve l'objet magnifique, donc j'avais vraiment envie de faire ce truc là. Et puis voilà, ça va toujours au bout de ce truc de artistique, quoi. C'est un objet, ouais, qui me tenait vraiment à cœur. Un vinyle, ça permet vraiment de s'exprimer graphiquement, ça permet d'avoir quelque chose un design avec une vraie définition un peu grande, où on peut travailler le vinyle en lui-même. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a tenu beaucoup à cœur. Mais d'ailleurs, on est ultra content d'avoir eu autant de soutien sur ce crowdfunding. Et on se demande même si à un moment ou à un autre, on va pas réenregistrer Ghost pour le plaisir et l'offrir sur des plateformes et peut-être faire un vinyle. Enfin, on a plein de choses en réflexion en ce moment.
Et donc voilà, juste pour terminer, donc qu'est-ce que pour conclure cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les temps qui viennent?
Eh ben, on peut nous souhaiter déjà de faire de la scène rapidement, vite sortir de chez nous. Et surtout, ben, j'espère pour fin 2020 un maximum de festivals, et pour 2021 de vraies belles scènes et de beaux festivals même à l'étranger. Donc on aimerait bien arriver à se classer sur des scènes comme celle du Motocultor, ou du Hellfest, ou du Metal Days, ou le Silac. Enfin voilà, on aimerait bien arriver à évoluer sur ce type de scène-là. Donc bah, tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est ça.
Ok, bah écoute, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci, puis donc, bah, tous nos voeux pour la suite, en tient au courant par les réseaux sociaux.
Je te remercie beaucoup.
Merci, à bientôt.
Ciao. À bientôt, ciao.